que vous connaissez peut-être sans doute, et presque sans doute effectivement aussi bien que moi, c'est-à-dire que ce baptême de Clovis, qu'on peut aussi donc qualifier de baptême de la France, parce qu'il n'est pas baptisé tout seul, et puis parce que ce baptême marque effectivement le départ d'une histoire longue, riche, en fait celle de la monarchie française, au moins de la monarchie franque, puis ensuite de la monarchie française, c'est-à-dire de cette espèce effectivement, comme le disait M. l'abbé, de mission historique de la France. Notamment à travers vis-à-vis de l'Église, et puis le rôle donc lui consacre en quelque sorte la Providence à travers cet épisode. Bon, alors les détails, effectivement, vous les connaissez peut-être aussi bien. Ce dont je vais m'efforcer ce soir, c'est de replacer un petit peu ça dans un contexte un peu plus général et voir comment finalement, d'une petite nation barbare, relativement méconnue, qui jusque-là avait joué un rôle extrêmement modeste, avec effectivement une région assez excentrée de l'Empire romain et qui n'était pas a priori prédisposée effectivement à devenir un grand royaume, qui n'avait pas jusque-là une grande unité, eh bien ce baptême, donc à travers ces deux éléments, est né d'une part le premier État occidental catholique, peut-on dire, qui est succédé donc à l'Empire romain, et ça c'est une chose, et non pas le premier État chrétien mais catholique, c'est-à-dire pas hérétique comme il en existait d'autres, et puis d'autre part effectivement comment à partir donc de cette date de ce baptême effectivement de Clovis, eh bien a pu débuter ce rôle historique donc de la France, du royaume des Francs qui deviendra ensuite le royaume de France, et rôle effectivement qui s'est poursuivi. Autant qu'elle a été effectivement fidèle à ses promesses, justement, ce baptême, et puis le rôle qui s'est généralisé, évidemment, parce que la France a été quand même le plus grand royaume d'Occident, au moins pendant des siècles. Monarchie, donc, qui réussit l'osmose entre deux populations d'origine très différente, de coutumes très différentes, de cultures très différentes, et qui, osmose, qui va se réussir, qui va se faire, effectivement, par l'unité de religion, et là aussi, donc, c'est ce caractère très spécial que donne le baptême de Clovis, que prend donc le baptême de Clovis pour donner naissance à cette monarchie catholique. Alors, je commencerai effectivement en essayant de dire quelques mots des Francs quand même, d'où venaient finalement donc les Francs, qui étaient ces Francs, et pourquoi Clovis et pas un autre, pourquoi ce chef-là et pas un autre, pourquoi la Providence en a décidé ainsi, présenté alors que rien finalement ne les prédisposait, en tout cas pas grand-chose. Bon, les Francs sont relativement peu connus, même des contemporains, ils étaient relativement peu connus, c'est-à-dire que les Romains n'en faisaient pas effectivement grand cas pendant très longtemps. Eux-mêmes, pendant très longtemps, ont douté de leurs origines, ils se sont donné donc une origine hongroise, pannonienne, enfin venant de Hongrie, avec un créateur, un fondateur mythique du nom de Francion, mais ça n'est qu'un mythe. La première mention, elle apparaît pratiquement donc au 1er siècle après Jésus-Christ, lorsque les armées romaines sont détruites dans la forêt de Teutobourg en 11 après Jésus-Christ. On parle de peuplades, les chérusques, les chattes, les bructères, effectivement, qui seraient un peu responsables, qui commencent donc à se sédentariser dans cette région du Rhin inférieur, c'est-à-dire progressivement donc ce qui correspond plus ou moins donc aux Pays-Bas et à la Rhénanie donc actuelle. Et puis, on les repère jusqu'en 250, première mention pratiquement, où ils s'organisent en fédération, fédération qui prend justement à ce moment-là de fédération franque, le nom de fédération franque. Étymologie un petit peu contestée, certains disent que franc bah, veut dire ce qu'il veut dire en français, c'est-à-dire libre en fait. D'autres les considèrent, estiment que ça veut plutôt dire hardi, courageux, brave. Bon, il y a un petit débat, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un peuple qui est éminemment guerrier. C'est une fédération guerrière qui rentre assez rapidement dans l'Empire romain, installée comme ce qu'on appelle les lettes, laïti en latin, c'est-à-dire en fait des gens qui sont soumis, en quelque sorte, qui sont dépendants de l'Empire, qui acceptent la suzeraineté, la soumission donc à l'Empire, et qui sont installés dans une région que les Romains appellent la Toxandrie, c'est-à-dire en gros le nord de la Belgique actuelle, donc et une partie de la Rhénanie. Ils vont fournir ces barbares, et là encore, il ne faut pas se méprendre sur le terme de barbares, c'est-à-dire que c'est vrai que ce sont des gens de mœurs plutôt rudes, mais toute l'époque est rude. Et ils ne se différencient en ça pas beaucoup des gallo-romains de l'époque, qui étaient aussi très batailleurs. Simplement, ce sont des gens quand même qui, lorsqu'ils apparaissent définitivement dans l'histoire, lorsqu'ils commencent à jouer un rôle très important, ont déjà eu pratiquement 3 siècles de contact avec l'Empire romain. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà très au fait des coutumes romaines, des lois romaines, des mœurs romaines et également des techniques militaires romaines. Parce que dès le IIIe siècle, donc dès 250 et la fin du IIIe siècle, ces Francs vont servir d'auxiliaires à l'armée romaine. Ils vont progressivement fournir des soldats, des officiers. Certains deviennent relativement célèbres, tel Arbogast, qui devient pratiquement un des maîtres de la milice romaine, donc en Gaule, dès le IIIe siècle. Et c'est sans doute l'une des peuplades qui subit le plus l'influence de Rome, paradoxalement. Donc ce ne sont pas des étrangers au monde romain. Et je voulais signaler cette préhistoire franque, en quelque sorte, pour montrer que ça n'est pas un hasard, effectivement, si un jour les gallo-romains, l'aristocratie gallo-romaine, par la voie des évêques, fera appel, ou en tout cas établira des relations avec des gens qu'on qualifie de barbares. En fait, ça n'était pas des étrangers, loin de là. Ils réapparaissent donc, je vous cite simplement pour montrer cette osmose quand même déjà, et puis cette habitude du monde romain. On a découvert en Rhénanie à Trèves une inscription disant effectivement en latin « Francus ego cives, miles romanus in armis », c'est-à-dire en gros « je suis franc de nationalité, mais je suis donc un soldat romain lorsque je suis sous les armes ». Pour montrer cette espèce de double appartenance nationale en quelque sorte à une nation barbare, mais en même temps effectivement déjà un sentiment de loyauté, en tout cas d'appartenance au monde romain, bien sensible. Réapparition donc des Francs au 5e siècle, où ils commencent donc à s'étendre, progressivement étendre leur influence, en se fédérant dans un monde, celui du 5e siècle évidemment, qui est incroyablement bouleversé. Et il faut dire que nous avons du mal aujourd'hui, d'une part parce que nos sources sont relativement modestes, les deux sources principales que nous avons concernant effectivement l'histoire de France à ses tout débuts, c'est d'une part l'histoire des Francs de Grégoire de Tours, mais qui est écrit pratiquement un siècle après les événements qu'il rapporte. D'autre part, c'est la vie de Saint-Rémy par Hincmar de Reims, mais ça c'est au 8e siècle, donc c'est encore beaucoup plus tardif. Ça ne veut pas dire effectivement que ces sources soient légendaires, mais il est clair qu'il faut le faire la part donc du temps. D'abord, elles sont quand même relativement modestes dans leur masse, et puis il faut faire la part du temps, il faut faire la part de la géographie, il faut faire la part donc des déformations historiques, c'est-à-dire que notre connaissance est quand même relativement limitée. Période donc extrêmement troublée, dans laquelle effectivement il est difficile un petit peu de percevoir les choses. Troublée parce que c'est le moment des grandes invasions, c'est ce qu'on appellera les grandes invasions, c'est-à-dire c'est la fin de l'Empire romain au moins en Occident. C'est effectivement le déferlement d'un certain nombre de peuplades, de peuples plus ou moins organisés sur ce qui était autrefois donc des régions romaines. Et puis là encore, difficulté de perception, parce que bon, c'est vrai que c'est aussi l'insécurité à l'intérieur des limites de l'Empire romain, et ce qu'on appelle le phénomène de la bagaude, notamment en Gaule, c'est-à-dire pratiquement de brigandage généralisé, de dissidents généralisés. Et puis parce qu'on a du mal, c'est-à-dire que pendant très longtemps on a vu les invasions barbares justement comme une ruée de gens totalement étrangers au monde romain et très nombreux. Alors qu'il semble effectivement qu'ils étaient des populations relativement faibles, sans quoi on expliquerait mal en fait l'osmose qui s'est produite plus tard, et puis d'autre part donc des populations qui avaient déjà connaissance du monde romain, qui n'étaient pas des étrangers, ce qui les a évidemment considérablement servis, parce que, et notamment en matière militaire, d'abord l'armée romaine était déjà très largement barbarisée, et puis ils connaissaient effectivement, ils avaient donc une connaissance très fine, très approfondie de ce qu'étaient les systèmes de défense romains. Donc un peuple, un contexte très très difficile de ce 5e siècle, où les Francs commencent effectivement à apparaître, à jouer un rôle très important, notamment, j'y reviendrai un petit peu plus tard, lorsqu'il s'agit de repousser les Huns, en 451, l'invasion des Huns qui elle-même a mis en marche un petit peu tous ces peuples, eh bien les Francs sont aux côtés des Romains. Bon, il y a déjà effectivement un premier, je dirais, protocole, en quelque sorte, une première alliance entre ce qui reste du monde gallo-romain, ce qui reste du monde romain, donc, et puis c'est... barbare. Un peuple qui est donc relativement romanisé, mais un peuple qui reste païen. Et ça aussi, c'est une originalité à l'intérieur du monde barbare, bien entendu à l'intérieur du monde romain, parce que le monde romain, au 5e siècle, enfin le monde qui avait connu la présence romaine, l'administration romaine, était un monde qui était pratiquement totalement chrétien dès la fin du 4e siècle, au début du 5e siècle. Et c'est donc un peuple païen, alors que d'autres peuples barbares sont chrétiens, mais sous une forme hérétique, c'est-à-dire l'arianisme. Notamment la grande confédération des Goths, qui se scinde en plusieurs branches, a sous l'influence d'un évêque arien, l'évêque Ulfila, qui a étudié à Constantinople, à un moment où l'Empire était très teinté d'arianisme, a traduit la plupart donc des textes sacrés donc dans une langue, le glagolitique, qui a disparu aujourd'hui, qui était donc une langue barbare, et donc Ulfila en quelque sorte a entraîné la conversion de la plupart des peuplades germaniques donc à l'arianisme. Résultat, ça ne favorise pas, évidemment, lorsque les barbares, d'une part, commencent à s'installer dans l'Empire, puis ensuite, lorsqu'ils commencent à envahir, ça ne facilite pas, évidemment, les contacts et les rapprochements, en quelque sorte, entre ces peuplades hérétiques, et puis, d'autre part, la masse de population de l'Empire, qui, elle, est catholique. Et je dirais que dans ce contexte-là, du coup, les Francs apparaissent aussi comme un moindre mal, c'est-à-dire que leur paganisme est vécu pratiquement comme un moins grand risque, en quelque sorte, pour les Romains, au sens large, c'est-à-dire les populations de l'ancien Empire romain, qu'une forme hérétique du christianisme. C'est donc dans ce contexte très troublé, je reviendrai, que naît en 466, vers 466, parce que nos sources, là, évidemment, sont relativement limitées, dans la famille, dans la branche des Francs qu'on appelle les Saliens, dans une famille dont le fondateur, en tout cas celui qui émerge dans l'histoire, est Mérovée, celui qu'on a baptisé Mérovée plus tard, parce que là aussi les noms évidemment connaissent des variations très importantes, sont des noms germaniques qui sont progressivement latinisés, puis souvent re-germanisés, naît quelqu'un qu'on appelle au départ Clodovig, qui deviendra sous une forme latinisée Lodovicus, Louis, et puis qu'on connaîtra pour l'histoire, sous le nom de Clovis. Son père était le roi Childéric, un petit roi donc installé en Belgique actuelle, qui assez bien considéré donc des Romains, qui meurt en 481. Son héritier donc à ce moment-là n'a que 15 ans. Un héritier qui s'impose finalement sans trop de difficultés, semble-t-il, à l'intérieur de son peuple, ce qui n'était pas évident, parce que comme leur nom semble l'indiquer, et comme l'était de toute façon la réalité de ces peuples, il s'agissait donc de peuples extrêmement guerriers, où chaque homme libre, c'est-à-dire chaque guerrier, avait pratiquement voix. Il y avait des assemblées périodiques, effectivement, qui permettaient, en quelque sorte, de confirmer les décisions. La monarchie franque n'était pas une monarchie toute puissante, absolue, loin de là. Elle était, en fait, l'émergence d'un chef de guerre parmi d'autres, et la possibilité qu'on lui donnait, effectivement, de gouverner donc le peuple. Donc un roi qui s'impose apparemment sans trop de difficultés à l'intérieur de son propre peuple, sans trop de difficultés aussi, sans trop de rivalité de la part des autres peuples et des différents rois installés dans la région, c'est-à-dire sans que d'autres rois francs cherchent éventuellement donc à contester son pouvoir. Ça, c'est donc la première composante. On a donc un peuple très modeste à l'origine, bien intégré au monde romain, ou en tout cas qui a eu des contacts précoces avec le monde romain, qui progressivement donc a joué un rôle un peu plus important, qui est bien vu des gallo-romains, qui est bien vu de l'aristocratie gallo-romaine, donc de ce qui reste de romanité. L'autre élément, évidemment, c'est la situation de la Gaule au 5e siècle, ce qu'il en est, et pourquoi à un moment donné, on a fait appel, ou les évêques, l'Église par la voie des évêques, les gallo-romains ont accepté la tutelle finalement donc de ces peuplades barbares et ont même, je dirais, favorisé en quelque sorte leur accession au pouvoir. Alors, la situation n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce que l'Empire romain s'est effondré en Occident, incapable de se défendre, sous la poussée effectivement donc d'une série donc de peuples barbares. En 378, à la fin du 4e siècle, l'empereur Valens a même été massacré avec une bonne partie de son armée lorsqu'il a tenté de s'opposer à Andrinople aux Goths qui s'avançaient donc dans l'Empire. Et puis en plus, les Huns qui viennent donc d'Asie centrale et qui commencent à arriver en Europe chassent devant eux dans une panique absolument indescriptible toutes les populations barbares qui se trouvaient installées jusque-là. Et dans la nuit, et c'est une date relativement importante pour l'Occident, dans la nuit du 31 décembre 406, le Rhin étant gelé, le Rhin qui servait un petit peu de défense naturelle et derrière laquelle était installé ce qui restait du limès, c'est-à-dire des protections frontalières romaines, eh bien le Rhin est franchi à hauteur à peu près de Mayence actuellement par toute une série de peuples. On a là les Vandales, on a là les Suèves, les Burgondes, les Alamans, plus tard les Visigoths qui les rejoignent, et tous ces peuples effectivement franchissent le Rhin en masse. Attention, ce ne sont pas des millions donc, d'envahisseurs, ce sont quelques dizaines, quelques centaines de milliers donc, d'envahisseurs qui pénètrent dans un empire qui est quand même peuplé, prends que le cas de la Gaule, de plusieurs millions donc, de gens, c'est-à-dire que c'est une petite minorité, mais une minorité armée, une minorité extrêmement belliqueuse, et une minorité qui fait irruption, effectivement, dans un monde qui est déjà très désorganisé. Le résultat, c'est une incapacité donc, de riposte de l'Empire romain, et pendant 3 ans, pratiquement, ces peuples-là vont, effectivement, parcourir la Gaule, semant les dévastations. Des dévastations qui ont sans doute été exagérées. C'est-à-dire que l'écho de cette... Ça paraissait tellement extraordinaire que, pour cette fois-ci, on n'ait pas pu endiguer le flot des invasions et que ces peuples, finalement, puissent faire à peu près ce qu'ils voulaient dans les anciennes limites de l'Empire, que ça a paru, effectivement, comme un cataclysme et pratiquement l'apocalypse aux gens qui la vivaient. Le résultat, c'est que ça s'est propagé dans tout l'Empire, et c'est Saint Jérôme, qui vivait à l'époque en Palestine, qui en parle en disant, effectivement, la Gaule n'est plus qu'un immense... Il le note, la Gaule n'est plus qu'un immense brasier au malheureux pays soumis, effectivement, aux joues donc, des barbares. Bon, il semble que dans la réalité, même si la situation n'était guère brillante, les choses étaient quand même un petit peu moins dramatiques. Ceci dit, évidemment, les destructions, les pillages, évidemment, étaient tout à fait fréquents. Et cette population gallo-romaine, qui avait été habituée à vivre quand même dans une relative sécurité pendant des siècles, est évidemment traumatisée un petit peu par l'événement. S'est repliée pour partie dans les villes, des villes qui se sont entourées de murailles. On a commencé à piocher, effectivement, dans les monuments romains pour élever à la hâte des remparts. Et puis, effectivement, on s'est enfermé à qui mieux, où on s'est enfui dans les forêts lorsqu'on ne pouvait pas s'enfermer dans les villes. Bon, la situation était quand même assez difficile. Progressivement, la situation se stabilise. Les Visigoths vont fonder un royaume très puissant dont la capitale est Toulouse, c'est-à-dire dans le quart sud-ouest actuel du pays. Le royaume va alors pratiquement jusqu'à la Loire. Donc ce qu'on appellera plus tard l'Aquitaine au sens large. Les Burgondes, eux, vont s'installer en gros dans la région qui va de Lyon à Genève, Dijon, et c'est l'origine de l'actuelle donc Bourgogne, et plus tard ils coloniseront les régions du Dauphiné actuel. Les Alamans, la peuplade sans doute là aussi la plus proche des Francs et en même temps la plus germanique, va s'installer dans le nord-est du pays, c'est-à-dire en gros la Lorraine, l'Alsace et puis la Franche-Comté actuelle. Les Francs restant donc dans leur zone d'occupation habituelle, c'est-à-dire en gros la Belgique et la frange nord de la France actuelle. Et puis au milieu de tout ça, subsiste quand même un îlot gallo-romain, c'est-à-dire de population gallo-romaine qui conserve donc le pouvoir en Île-de-France, en Normandie actuelle, dans les régions donc de la Vallée de la Loire, dirigé par des nobles romains, dont ceux qu'on appellera les maîtres de la milice, c'est-à-dire de la dernière armée organisée apparemment romaine. En fait, c'est une armée qui, elle aussi, est essentiellement barbare et notamment essentiellement composée de Francs, mais qui théoriquement tient le pouvoir au profit de l'aristocratie gallo-romaine. Ces maîtres de la milice, le plus célèbre est Aetius. On lui succède à Aegidius. Vous avez aussi donc le Paul, et puis le dernier sera Syagrius. Bon, ce sont des gens qui s'efforcent de faire vivre, en quelque sorte, au profit d'une minorité très fortunée, parce que l'aristocratie gallo-romaine de l'époque est une aristocratie qui est très très prospère, au milieu de ce désastre un petit peu général, qui s'efforce de faire survivre finalement une espèce de romanité, ce qu'on pourrait définir comme la romanité. Alors en quoi ça réside? Le droit romain, ça réside en un mode de vie qui est encore un peu romanisé, et puis la romanité de l'époque, elle est déjà ce qu'elle sera beaucoup plus tard, c'est-à-dire que c'est déjà le catholicisme. C'est l'orthodoxie religieuse. Ça n'est plus le lien juridique avec un empereur qui n'est même plus à Rome, qui est à Ravenne, mais qui n'a plus aucun pouvoir. C'est l'identité de la foi, c'est le catholicisme. Et on peut dire que déjà à ce moment-là, l'idée de romanité, ce qui reste de romanité donc dans la Gaule du 5e siècle, c'est la foi catholique évidemment partagée par l'immense majorité de la population, incarnée par des évêques qui jouent un rôle tout à fait majeur. Ces évêques sont eux-mêmes issus des grandes familles aristocratiques. L'exemple, Saint-Rémy, on y reviendra, est issu de ses familles. Sa famille possédait un très très vaste domaine en Champagne. Vous avez aussi pour exemple Sidoine Apollinaire, qui sera évêque de Clermont donc dans la même période et qui jouera donc un très grand rôle. Il y a aussi Saint-Avit de Vienne, vous avez Saint-Loup de Troyes. Toutes donc des évêques qui sont issus de ce milieu dirigeant et qui s'efforcent donc de préserver autant qu'ils peuvent à la fois les populations évidemment dont ils ont la charge, les populations de leur diocèse, les diocèses qui à l'époque, ne l'oubliez pas, sont essentiellement urbains. Il n'y a pas de paroisse rurale au 5e siècle. Il y a un groupe cathédral, une église de l'évêque, la vie cultuelle s'organise essentiellement donc dans la ville épiscopale. Les dessertes rurales sont encore relativement limitées. Ce réduit gallo-romain Et donc, bien entendu, ces Gallo-Romains, il faut qu'ils coexistent là où les royaumes barbares sont installés, coexistent plus ou moins bien avec les envahisseurs. Il y a une espèce de modus vivendi, les envahisseurs sont bien, trop peu nombreux, sont loin d'être assez nombreux pour pouvoir éradiquer, je dirais, ce qui reste de culture romaine, ça c'est clair. Mais par contre, leur arianisme fait que les relations sont souvent assez tendues avec l'épiscopat et avec les populations. La première union qui préfigurera ce que sera ensuite, donc ce qu'il arrivera avec le baptême de Clovis, c'est lorsque les Huns donc déferlent en 451, la résistance va s'organiser autour des évêques, qui souvent empêcheront la panique de se propager et empêcheront la destruction des cités, tout simplement parce qu'ils organiseront la défense. Et vous pouvez m'en croire, les évêques de Stan sont peut-être aussi de grands théologiens, sont peut-être des théologiens et des vrais évêques, mais sont aussi des meneurs d'hommes. Ça, effectivement, les origines aristocratiques sont là, sont des gens qui, la plupart du temps, effectivement, dans leur jeunesse, ont eu une formation assez militaire, assez poussée, et sont des gens qui ont de la trempe et qui ne répugnent pas, effectivement, d'aller au rempart, encourager, je dirais pas crosse en main, mais c'est tout juste. Alors, c'est le cas, donc, de Saint-Loup à Troyes, effectivement, donc, qui préserve la cité des Huns. C'est le cas, par exemple, de Saint-Aignan à Orléans, là aussi, qui va galvaniser la population et qui va empêcher, donc, la cité de succomber. C'est le cas aussi de Saint-Germain d'Auxerre, qui est à Paris à ce moment-là et qui galvanise la résistance, assistée quand même, il faut bien le dire, d'une frêle mais forte femme qui s'appelle Sainte-Geneviève, enfin, qui n'est pas encore sainte à l'époque mais est en train de le devenir, et qui, et il faut le dire, vous voyez que déjà il y avait des problèmes à l'époque, ce sont les femmes qui en fait sont l'âme de la résistance, les hommes avaient déjà projeté de s'enfuir, effectivement, et Sainte-Geneviève qui galvanise les femmes, qui s'enferment dans une église, c'est l'église Saint-Jean-le-Rond à Paris. Les femmes refusent donc de partir, et du coup, les maris, effectivement, sont obligés de rester et puis d'organiser la défense. Bon. Rassemblement d'une armée, qui comprend, sous la direction d'Aétius, effectivement, dernier, donc maître de la milice, qui comprend des Francs en très grand nombre, notamment sous leur roi Mérové, des Visigoths, qui viennent là aussi se rendre compte du danger et qui envoient des contingents, et puis d'autres peuplades barbares, et le résultat, vous le savez, de cette alliance, de cette coalition, c'est la victoire qui sort au champ catalonique, au Campus Mauriacus, près de Troyes, la victoire sur les Huns, effectivement, qui sont obligés de repartir. Résultat, les rapports entre les Francs et les Gallo-Romains sont relativement bons dans la zone que les premiers occupent, mais, et vous allez me dire, ils sont quand même des barbares, donc logiquement, l'Église aurait dû soutenir ce qui restait de représentants du monde romain, de la romanité, c'est-à-dire effectivement Aegidius, qui succède à Aétius, qui a été assassiné sur l'ordre de l'empereur Valentinien III, qui craignait, vous voyez, ça aussi, ça illustre la décomposition du monde romain. Vous avez un empereur qui est enfermé dans Ravenne et qui ne contrôle à peu près plus rien, mais qui, lorsque quelqu'un semble commencer à incarner une espèce de redressement et un espoir, eh bien, tout simplement, on préfère le faire assassiner, comme ça évite la concurrence. Donc, Aegidius qui succède à Aétius, et puis surtout, donc, son fils Siadrius, bon, semble à la limite mieux incarner que les Francs la romanité, et l'espoir, en quelque sorte, de préserver quelque chose de ce qu'était l'Empire romain. Mais ces maîtres de la milice semblent aussi, aux yeux des évêques, de plus en plus incapables de faire face à ce qui est la vraie menace, c'est-à-dire les deux royaumes ariens qui sont installés dans le sud du pays, c'est-à-dire les Visigoths d'une part, et d'autre part les Burgondes. Le danger, celui des Visigoths. Sous la direction d'un roi assez avisé, le roi Euric, les Visigoths s'emparent de l'Auvergne, qui était là aussi pratiquement une espèce de réduit, plus ou moins romanisé, malgré la défense donc, de Sidoine Apollinaire. Les Visigoths poussent en direction de la Loire parce qu'ils convoitent le grand sanctuaire de l'époque, qui est Saint-Martin de Tours, qui est évidemment le grand sanctuaire de la Gaule à cette époque-là. Et puis des Visigoths qui sont de plus en plus ariens, c'est-à-dire qui entendent limiter le poids de l'Église catholique dans des zones, évidemment, où la majorité de la population donc l'est. La plupart des évêques sont emprisonnés, d'ailleurs, à ce moment-là. Un certain nombre seront même, non pas martyrisés, si vous voulez, par le glaive, mais les mauvais traitements que l'on fait subir, effectivement, ont tendance à hâter leur fin. Et il semble que, consciente de ce danger, et considérant donc Siagrius incapable de que ces griffes étaient incapables donc de défendre efficacement ce qui restait donc l'Église et puis ce qui restait donc du monde gallo-romain donc contre cette menace, eh bien Saint Rémy, qui est à ce moment-là donc évêque et métropolitain de Reims, qui est une grande province ecclésiastique donc de la Gaule du Nord, eh bien cette incapacité détermine Saint Rémy à se tourner vers les Francs et Clovis. Bon, le choix de Saint Rémy, il est patent dès 481, quand Clovis succède à son père. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Saint Rémy envoie, c'est Grégoire de Tours qui le rapporte, et on rapporte aussi à peu près donc le texte donc de cette lettre, envoie une lettre donc à Clovis, en lui disant que l'Église le considère comme tout à fait légitime, le considère comme un interlocuteur tout à fait acceptable, et ne voit pas d'opposition à ce que son pouvoir se développe si lui-même respecte finalement les privilèges de l'Église et son autorité. Je vous cite un extrait, une grande rumeur nous a atteint qui dit que vous avez pris le commandement de la Belgique seconde. Vous voyez, là c'est la survivance, on emploie toujours donc la dénomination donc romaine. Il n'est pas surprenant que vous ayez commencé à être ce que vos ancêtres ont toujours été. Le don de votre faveur doit être pur et honnête, il vous faut honorer vos évêques et toujours vous incliner devant leurs conseils. Pour vous, que vous soyez en accord avec eux, votre territoire prospérera. C'est-à-dire qu'on commence déjà à poser finalement les bases de l'entente, c'est-à-dire que l'Église est prête à apporter la collaboration des populations, l'Église est prête à apporter donc la collaboration de son autorité, de son pouvoir, de sa structure, hein, parce qu'elle est quand même le dernier pouvoir civil, pourrait-on dire, non seulement ecclésiastique, mais civil organisé, notamment dans les villes, si effectivement Clovis, eh bien, en échange, respecte les termes du contrat, c'est-à-dire donc qu'il assure la liberté donc à l'Église, s'il respecte les évêques, et sous-entendu aussi, si évidemment, donc, il s'occupe activement de l'arianisme. La Providence se choisit des sujets qui sont aptes, je dirais, donc à la recevoir, à l'accueillir. C'est-à-dire que Clovis aurait pu effectivement envoyer paître Saint-Rémy en disant « Moi j'ai du butin à faire, j'ai une bonne armée, après tout les richesses c'est dans les églises, et puis que le meilleur gagne. » Clovis n'est pas si fou. Effectivement, dès le départ, dès 481, il a beau être païen, il prend bien garde effectivement de ne pas s'attaquer au bien de l'église, et surtout que dans ses premières campagnes, ce ne sont que des escarmouches, dans la région de la Picardie actuelle contre les forces de Siagrius, de ne pas effectivement donc livrer les églises au pillage, de respecter la personne des prêtres, c'est-à-dire donc se ménager la susceptibilité de l'église. Confiant donc dans cette espèce d'accord tacite, et puis confiant dans la force de ses hommes, en 486, la Clovis, appuyée par d'autres dynastes francs, notamment donc le roi de Cambrai, eh bien va s'attaquer donc à ce réduit de Siagrius, qu'il bat à Soissons. Soissons était à l'époque la capitale donc de ce petit royaume. Siagrius portait le titre de Rex Romanorum, c'était roi des Romains, qui en fait était un titre purement barbare. Jamais cette titulature n'a existé dans le monde romain, et s'empare donc du territoire que celui-ci contrôlait. Siagrius perd sa capitale, s'enfuit chez les Visigoths, et il n'a pas de chance, effectivement, il ne choisit pas bien, il espère effectivement s'enfuir chez les Visigoths en rameutant ceux-ci, en disant « Voyez le danger, il faut faire quelque chose », et finalement, Alaric, qui ne tient pas outre mesure à se mettre Clovis à dos immédiatement, et bien tout simplement renvoie Siagrius dans les fers, accompagné d'un petit billet en disant à Clovis « Je te souhaite bien du plaisir », tout simplement, donc, et moi c'est moi qui l'invente, hein, mais c'est à peu près libéré en ces termes, en disant effectivement, donc, et puis... bon, qu'il le remettait finalement à son beau vouloir, Siagrius est finalement donc livré et exécuté. Bon, c'est à ce moment-là que se passe l'épisode le plus connu, celui du vase de Soissons, c'est-à-dire que dans la prise de Soissons, des soldats auraient effectivement dérobé un vase sacré appartenant vraisemblablement à l'évêque de Soissons ou de Noyon, hein, on ne sait pas trop. Et là, Clovis, effectivement, bon, demande à ses hommes, en gros, de lui accorder hors butin, en quelque sorte, ce vase. À ce moment-là, il y a des gens, effectivement, enfin certains soldats, et notamment celui qui aurait commis le rapt, refuse. Je dirais bien mal lui en a pris, tout simplement parce que, vous savez, une année plus tard, ce en passant les troupes en revue, Clovis effectivement considère que les armes du soldat sont très mal tenues, effectivement, au moment où l'autre se baisse, enfin du moins c'est ce que Théodore de Tours rapporte. Clovis s'empare effectivement donc de sa hache et lui dit « Souviens-toi du oise de Soissons » et paf, hein, effectivement, de Cloxy. Bon, Clovis n'est pas un enfant de cœur, hein, c'est un roi barbare quand même, hein, c'est-à-dire que, bon, c'est quand même d'abord quelqu'un qui est né pour la guerre, qui est né pour le combat, et bon, les mœurs de l'époque, effectivement, ne sont pas raffinées outre mesure. Une puissance qui est quand même modeste, il faut bien le dire, parce que Clovis, après sa victoire de Soissons, échoue devant la ville de Lutèce, Paris, si vous préférez, défendu, là encore, par Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, effectivement, considère qu'il est tout à fait inacceptable de livrer donc Paris aux Manapaïens, et Clovis est incapable de s'emparer de cette ville qui était quand même relativement modeste. Bon, c'est vrai que Lutèce avait été relativement prospère, mais enfin, ça n'était quand même pas une très très grande capitale, et ça prouve quand même l'aspect assez limité donc de ses forces, et puis peut-être aussi la sagesse de Clovis, donc de ne pas vouloir en quelque sorte brusquer les choses, lorsqu'il sait le prestige, effectivement, dont jouit à ce moment-là donc Sainte-Geneviève. Progressivement, donc, les choses vont évoluer, donc une alliance qui est esquissée, mais qui demeure finalement bien fragile, d'autant, et sans doute que cet épisode va montrer aux évêques que le danger est toujours présent, d'autant que Clovis, à ce moment-là, va marier que Clovis, à ce moment-là, va marier une de ses sœurs, je vous la cite pour son très joli prénom, qui est celui d'Adolfled, avec Théodoric, roi des Ostrogoths d'Italie, hein, qui règne à ce moment-là donc sur l'essentiel de l'Italie. Et tout d'un coup, les évêques s'aperçoivent qu'après tout, une alliance est possible, finalement, entre Clovis et puis une monarchie arienne. Et ça détermine un des grands évêques de la Gaule de cette époque, l'évêque Saint-Avit, qui est évêque de Vienne, a proposé une princesse burgonde qui est catholique en mariage à Clotis, à Clovis, pardon. Clovis donc devient veuf à ce moment. Bon, les négociations traînent un petit peu en longueur parce que l'oncle de la future mariée, l'oncle de Clotilde, le roi Gondebaud, n'a pas envie de laisser partir sa nièce. Puis finalement, effectivement, il cède. On raconte pratiquement que Clovis aurait presque fait un espèce de raid nocturne pour vérifier effectivement si la fiancée était aussi bien qu'on lui avait décrit. Il avait envoyé un de ses fidèles serviteurs auréliens donc, en ambassade. Et puis finalement, donc le mariage se conclut en 492 à Soissons, en l'église de la Trinité, avec la promesse, évidemment, donc Clovis est toujours païen à ce moment-là, mais avec la promesse que les enfants, donc Annette, soient baptisés, tout en sachant que le fils aîné, l'héritier, donc Thierry, est païen. Le fils aîné de Clovis, à ce moment-là, donc est encore païen. Bon, il semble que Clotilde, effectivement, ait eu une influence réelle sur son époux. Elle ne parvient toutefois pas à le décider, donc à se convertir. D'autant qu'un premier enfant baptisé donc meurt en 494, que son frère né peu après, Clodomir, est sauvé de justesse. Ça n'incite pas visiblement le roi donc à se convertir. Et puis surtout, ce qui semble poser problème, c'est que la base, les troupes franques, qui sont essentiellement donc qui sont des guerriers, qui sont donc des gens qui vénère avant tout quelque part la force, ne sont pas prêtes non plus à accepter en quelque sorte une conversion. Les choses suivent leur cours et l'épisode effectivement qui marque le tournant de cette histoire, c'est, vous le savez, donc la bataille de Tolbiac, de Zulpich, dans le sud de l'Allemagne actuelle. Clovis, en 495, là encore vraisemblablement, mais on n'est pas du tout sûr donc, de la date de la bataille de Tolbiac. Grégoire de Tours dit que c'est la 15e donc, année du règne de Clovis. Bon, il a commencé à régner en 481. Ce serait donc aux alentours donc, de la fin d'année 495-496. On n'est sûr de rien. Il semble effectivement que répondant donc, à l'appel d'un de ses alliés francs, Clovis s'engage contre les Alamans, peuplade là aussi assez expansionniste, livre bataille, et bon, la bataille se passe mal, les Francs sont sur le point de succomber, les Alamans sont en train de prendre l'avantage, et à ce moment-là, donc, Clovis aurait fait cette promesse et cette invocation en disant: Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien en quelque sorte. Et puis finalement, le roi des Alamans donc, est tué dans la mêlée, les Alamans se dispersent et les Francs restent maîtres du terrain. Bon, il semble aussi que n'ait pas été pour rien dans cette histoire la présence de très nombreuses troupes gallo-romaines aux côtés donc des Francs, c'est-à-dire que des contingents gallo-romains catholiques étaient présents et que leur rôle dans la bataille ait pu aussi montrer aux Francs que les gallo-romains savaient aussi bien se battre et qu'étant catholiques et victorieux, ça voulait peut-être dire aussi que leur dieu était tout aussi valable que les divinités païennes. Et en tout cas, donc de retour à Soissons, Clovis, à ce moment-là, donc respectant sa promesse, est catéchisé pardon, en personne par Saint Rémy, qui vient à ce moment-là donc à Soissons. Il est catéchisé en même temps que deux de ses sœurs, même si à ce moment-là, la conversion de l'ensemble des troupes pose encore problème. Il faut une négociation assez longue pour que finalement l'essentiel donc des troupes accepte là aussi l'idée du baptême et puis commence à recevoir donc les rudiments donc d'instruction. L'accord est finalement obtenu et c'est vrai que la signification du baptême est tout autre selon que le roi, un individu donc est baptisé ou qu'une nation et que le roi en tant que chef de nation donc est baptisé. Parce qu'après tout, si les guerriers n'avaient refusé ce baptême, cette perspective, eh bien rien n'aurait empêché que Clovis soit remplacé tout simplement par un autre prince, lui resté païen. Et évidemment, les choses auraient pu prendre un tout autre cours. Bon, la cérémonie est préparée à Reims, qui est donc la métropole provinciale, qui est le siège donc de Saint-Rémy, de façon assez somptueuse, semble-t-il, au témoignage donc de Grégoire de Cours, vraisemblablement parce que d'une part, l'Église est à ce moment-là déjà extrêmement puissante et que bon, le faste liturgique est déjà une réalité, bon, quelque chose de très très implanté, mais en même temps tout simplement parce qu'il s'agit aussi de faire la plus belle cérémonie possible, parce que sur l'esprit des barbares, on sait que ça a une influence très nette en quelque sorte, hein, et que bon, on traduira les propos plus tard, on dira effectivement lorsque Clovis rentre dans la cathédrale de Reims, à ce moment-là, il commence par poser la question, mais est-ce que c'est déjà là le ciel? Et effectivement, Saint-Rémy aurait eu cette réponse, oui, j'en ai déjà en fait l'avant-goût en quelque sorte. Hein. Baptême qui se déroule donc dans la nuit de Noël 496, vraisemblablement, c'est la date que l'on retient communément, tout en sachant que là aussi on n'a rien de précis. Par contre, on sait que c'est dans la nuit de Noël, parce qu'une lettre de Saint-Avit, évêque de Vienne, donc et métropolite de Vienne, à Saint-Rémy, indique effectivement que, en gros, c'est dans la nuit de Noël et que la nuit de Noël a été choisie pour montrer cette espèce de régénération. Et comme, en gros, le Christ est venu, eh bien, il fallait en quelque sorte qu'une ère nouvelle vienne tout simplement donc, pour changer donc, le cours des choses et pour assurer donc, cette espèce de conversion générale en quelque sorte du royaume. Le baptême se fait, et là encore, selon donc, la tradition qui est rapportée par une triple immersion, vraisemblablement. Bon, bien entendu, c'est un symbole trinitaire très fort et vraisemblablement là aussi pour montrer en opposition à l'arianisme en quelque sorte, pour bien montrer donc la distance qu'il y a donc, entre le catholicisme et l'arianisme. Et puis selon la formule consacrée donc, de Saint-Rémy que vous connaissez tous, donc courbe la tête, fier sicambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Alors pourquoi l'emploi de sicambre, vraisemblablement, mais tout simplement parce que sicambri, qui était un terme qui était employé par les auteurs classiques romains, désignait donc des peuplades barbares. Hein. Donc bon, là on reprend là aussi cette expression donc ancienne pour désigner donc les Francs. Une cérémonie donc grandiose, avec quand même un moment d'affolement. On n'a pas prévu le Saint-Crème, comment est-ce qu'on va faire? Et là encore, épisode donc tout à fait miraculeux, puisqu'une colombe donc qui se trouve à ce moment-là donc dans, ou qui apparaît à ce moment-là donc dans cette cathédrale de Reims, cathédrale qui était très récente d'ailleurs, il faut le noter, hein, c'est une cathédrale qui avait été construite par l'évêque Saint Nicaise moins d'un siècle et qui passait justement pour un des plus beaux édifices de la Gaule. Au cours donc de la cérémonie, donc le Saint Crème qui manque, eh bien, est apporté par une colombe. Et c'est là donc l'origine de cette sainte ampoule qui sera ensuite vénérée à Reims, qui servira plus tard pour le sacre des rois. Pas oublier, on confond souvent les choses. Clovis n'a pas été sacré et aucun de ses successeurs ne le sera jusqu'à ce qu'un jour Pépin le Bref effectivement soit sacré donc par le pape, d'abord par l'archevêque de Reims puis ensuite par le pape Zacharie donc en 751. Bon, là il s'agit d'un baptême, mais le Saint-Crème effectivement conservé dans la Sainte Ampoule sera effectivement vénéré donc à Reims, sera utilisé pour tous les sacres des rois de France jusqu'à ce que les révolutionnaires, vous le savez, donc la détruisent pour partie donc en 1793. On réussira à en recueillir quelques parcelles et le dernier roi de France à être sacré, c'est-à-dire le roi Charles X, le sera encore avec le contenu de la Sainte Ampoule. À la suite de Clovis, donc baptême de Clovis, évidemment dans cette allégresse générale, au milieu du déploiement liturgique, déploiement baptême aussi pour les princesses, donc ses sœurs, et puis ensuite l'ensemble des guerriers. Il semble que là, la cérémonie est évidemment un peu simplifiée. Il semble que ce ne soit pas Saint-Rémy qui ait baptisé les 3000 guerriers que la tradition rapporte, mais est-ce qu'il y en avait 3000, est-ce qu'il y en avait 2000, si c'est pareil, c'est évidemment très difficile de savoir avec exactitude. Il semble que, bien sûr, tout le clergé ait été mis à contribution dans cette nuit de Noël, donc 496. Et à partir de là, il est clair, évidemment, que se fonde cette monarchie, et la première monarchie catholique du monde issu de l'Empire romain. L'Empire romain avait été chrétien, avait été catholique au IVe siècle, mais jusque-là, la France est le premier des États issus de la décomposition, issus de la disparition de l'Empire romain, donc à être effectivement catholique. Et pour la première fois, la majorité de la population romaine, gallo-romaine et l'envahisseur sont de même foi. Et c'est donc un cas unique, et c'est ce qui fait évidemment cette originalité. Alors, cette conversion, elle est évidemment une conversion personnelle. Là encore, Grégoire de Tours rapporte qu'au cours donc, de son enseignement au récit de la Passion, Clovis aurait dit, bon, je pense que la parole est apocryphe, mais enfin, elle est très belle, elle mérite quand même d'être soulignée, d'être apportée, effectivement. Ah, si j'avais été là avec mes francs, l'air de dire, effectivement, rien ne serait passé comme ça. Bon, ça témoignait de l'enthousiasme. Il est clair, il ne faut pas sombrer dans la géographie. Clovis n'est pas devenu théologien du jour au lendemain. Clovis avait une religion qui restait, une vie, une piété qui restait très rudimentaire, en quelque sorte. Les mœurs restaient très rudes, et ça reste avant tout un guerrier. Et bon, il est clair qu'il ne devient pas un saint du jour au lendemain, mais cette conversion est une conversion réelle, qui ne sera jamais remise en cause, et il faut quand même le souligner, qui ne sera jamais remise en cause ni par Clovis, ni par les membres de sa famille à sa suite, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'interruption, effectivement, dans la monarchie franque, puis la monarchie de la France, française, effectivement, dans ce caractère profondément catholique. Conversion personnelle, conversion qui est aussi évidemment politique, parce que le retentissement, il ne se fait pas attendre. Et l'annonce de ce baptême inquiète beaucoup dans les royaumes voisins, notamment les Visigoths, les Burgondes qui sont à rien, tout simplement parce que ces souverains-là craignent de voir la majorité des populations de leur royaume, qui sont elles aussi gallo-romaines, les évêques, eh bien très rapidement se tourner vers les Francs en disant effectivement, est-ce que vous ne pourriez pas venir nous débarrasser finalement de la tutelle de ces hérétiques ? Et il est clair que la situation commence à devenir de moins en moins agréable. Les craintes sont d'autant plus vives qu'il y a des témoignages publics finalement de cette espèce de primat que commence à jouer Clovis dans le monde de l'ancienne Gaule. Saint Avit de Vienne, toujours lui, et qui est pourtant dans le territoire donc burgonde, n'hésite pas à écrire en invitant Clovis à remplir son rôle de prince chrétien, de protecteur de l'Église. Il est clair que pour le roi Gondebaud, évidemment, c'est une perspective qui n'a rien de très très réjouissant. D'ailleurs, voyant la menace, après des épisodes mouvementés avec son frère, Gondebaud d'ailleurs se convertit lui aussi au catholicisme. Bon, il semble que là aussi, après avoir tué son frère, il ait eu quelques remords, et puis que les circonstances donc soient favorables donc à ce baptême. Bon, c'est donc un nouveau royaume qui rentre là aussi donc dans l'orbite catholique. C'est aussi là où un rapprochement, et les Burgondes, l'osmose là aussi se fera très facilement jusqu'à ce que le royaume donc disparaisse entre les Burgondes et la population donc gallo-romaine. Entre-temps, 497, Clovis quand même, après son baptême, ne se repose pas totalement sur les lauriers, il rentre à Paris, enfin. Sainte-Geneviève donne la permission, entrer donc à Paris. Qui est assez triomphal, et Sainte-Geneviève devient à ce moment-là l'amie et la conseillère donc de Clotilde du roi jusqu'à sa mort en 512. Et c'est ce qui frappe aussi quand même dans cette histoire, hein. Il y a une proximité, il y a non seulement donc un rôle politique, il y a une conversion qui n'est pas purement formelle. La monarchie franque, dès l'origine, dès Clovis, bon, Clotilde sera canonisée, Sainte-Geneviève donc elle sera canonisée, elle est de la filiation de Saint-Germain d'Auxerre. Il y a une proximité même dans les périodes, et notamment je pense à l'héritage de Clovis ou la période mérovingienne où effectivement la monarchie sera pas, les souverains ne seront pas toujours très chrétiens, mais ils auront toujours dans leur entourage, et ils seront toujours donc des gens qui seront relativement saints, ou qui seront des saints, et ils seront toujours très attentifs, effectivement, donc à cette présence, à ce conseil. Désormais, le seul royaume à rester à rien dans le territoire de l'ancienne Gaule, ce sont donc les Visigoths, et le roi Alaric, voyant donc la menace, considérant donc que la population gallo-romaine catholique constitue une menace, eh bien accentue la persécution, notamment en fermant les églises, en arrêtant donc les évêques, en les enfermant, en persécutant des communautés de fidèles. Et bon, très rapidement, des aristocrates gallo-romains donc de ce royaume visigoth font appel donc au roi des Francs. Celui-ci ne peut pas y répondre tout de suite, d'une part parce que le royaume visigoth est quand même le plus puissant, le plus riche à l'époque, le plus nombreux aussi, les visigoths sont les plus nombreux. Et puis très rapidement, Clovis va commencer à ressentir les atteintes de la maladie et donc est incapable dans un premier temps de répondre à cet appel. Il faudra l'intervention de Saint-Séverin, abbé du monastère Saint-Maurice d'Agone dans le Valais, qui vient à Paris, effectivement, pour que le roi soit guéri. La guérison est obtenue. Saint-Séverin mourra d'ailleurs donc à Paris, ce qui est à l'origine de l'église Saint-Séverin actuelle, et puis d'une abbaye qui est fondée à ce moment-là par Sainte-Clotilde et qui sera très florissante pendant très longtemps. Et après avoir été guéri, donc, le roi rentre en campagne. Donc, campagne décisive contre les Visigoths, et une campagne qui est placée, et ça montre quand même, là aussi, en dépit là, du caractère très guerrier, du caractère peut-être éventuellement assez rudimentaire donc de cette foi, du caractère quand même profond, la campagne débute par un pèlerinage au tombeau de Saint-Martin, donc à Tours, où l'interdiction du pillage est décrétée. Il est décrété effectivement que les soldats ne pourront pas piller donc, dans la campagne, que les biens bien entendu des églises seront respectés, et que d'une manière générale les populations civiles évidemment seront donc totalement exemptes d'exaction. Là encore, et selon le témoignage de Grégoire de Tours, épisode miraculeux, parce que le problème c'est qu'on est au printemps, parce qu'il ne s'agit pas évidemment de se combattre l'hiver, mais les pluies ont été particulièrement abondantes, les rivières sont en crue, notamment la Vienne se trouve à ce moment-là donc en crue, l'armée franque a des difficultés pour passer, et après que Clovis ait demandé à Dieu de lui apporter la solution, eh bien une biche, raconte Grégoire de Tours, d'une taille exceptionnel, à ce moment-là franchit la rivière Aguet, ce qui effectivement détermine le roi à emprunter le même chemin, et l'armée des Francs donc passe assez commandément donc ce fleuve en crue, ce à quoi ne s'attendaient pas visiblement donc les Visigoths. Deuxième épisode miraculeux, l'armée franque campe sous la ville de Poitiers, et dans la nuit, il semble que la cathédrale de Poitiers, qui abrite le tombeau de Saint-Hilaire, se soit donc illuminée de manière donc soudaine et visible, donc de manière tout à fait là encore miraculeuse. Saint-Hilaire, faut pas l'oublier, avait été le grand pourfendeur de l'arianisme donc en Occident donc au 3e et 4e siècle, Et là aussi, le symbole est très fort. Il ne faut pas oublier que ce sont les Ariens qu'on va combattre, ce sont les Wisigoths, mais ce sont aussi donc des Ariens, c'est-à-dire des hérétiques qu'on va combattre. La rencontre, elle a lieu donc en 507 à Vouillé, pas très loin donc de Poitiers, et le combat est acharné. Au cours de cette bataille, le roi Alaric des Wisigoths donc est tué, ce qui provoque là aussi donc le débandade de ses troupes. Et très rapidement, sans les Wisigoths, le roi Amalaric, son successeur, s'enfuit outre-Pyrénées. Les Wisigoths vont fonder là un nouveau royaume, qui sera le royaume donc, de Tolède, après, donc abandonnent leur capitale. Donc toute l'Aquitaine est occupée de manière relativement facile. L'Aquitaine, c'est-à-dire en gros, l'Aquitaine actuelle, le Poitou actuel, l'Auvergne et les régions donc, du Quercy, c'est-à-dire du sud du Massif central. Donc un royaume désormais, un royaume franc qui s'étend désormais jusqu'aux Pyrénées, pratiquement, ce qui évidemment double pratiquement sa superficie. Un royaume qui renforce son caractère romain parce que dans ces régions, les structures romaines étaient restées très présentes, c'est-à-dire que l'influence barbare avait été encore moins forte. Bon, il y avait les Wisigoths, mais les Wisigoths qui vivaient très séparés de la population gallo-romaine du fait de leur hérésie, leur arianisme, et les structures gallo-romaines étaient très 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 bien implantées. Donc ce qui fait que le royaume franc, là encore, se romanise encore un petit peu plus après donc cette victoire donc de Vouillé, après cette annexion. La présence reste très des Francs dans cette zone sera pratiquement résiduel, et en fait, tous les cadres du royaume seront des gallo-romains, seront des membres de l'aristocratie, donc gallo-romains. Clovis rentre à Tours, où là, l'attend une bonne nouvelle, parce que sur le plan des symboles, c'est toujours encourageant. Un légat de l'empereur Anastase, donc de l'empereur romain d'Orient, venu de Constantinople, lui remettre les insignes consulaires, hein, c'est-à-dire qu'on fait de Clovis donc un consul romain. Évidemment, ce n'est plus qu'une fiction, mais c'est une fiction qui a son importance, c'est-à-dire que l'empereur de Constantinople, il est clair que l'empereur de Constantinople n'a aucun moyen d'agir sur le royaume franc. Hein. Les distances sont telles, les obstacles sont tels que là, il n'y a pas de risque. Mais il n'empêche que le symbole est quand même fort, puisque l'empereur romain donc reconnaît en quelque sorte donc Clovis comme l'héritier légitime finalement de cette présence romaine en Occident, et puis comme un souverain tout à fait légitime. À partir de ce moment-là, le royaume est quand même bien consolidé, il est très important en étendue, les populations gallo-romaines forment l'immense majorité, les évêques jouent un rôle extrêmement important, et la fin du règne est occupée à réduire tous les royaumes francs qui subsistaient. Il y avait un royaume qui était implanté à Thérouanne, c'est dans le nord, enfin dans le département du nord actuel. C'est le royaume de Cologne, beaucoup plus à l'est, qui est progressivement là aussi donc liquidé, le royaume de Cambrai, essentiellement pour éviter les risques successoraux, pour éviter qu'à sa succession, d'autres souverains qui, eux, étaient païens, tous ces petits rois francs étaient donc demeurés donc païens, pour éviter effectivement que ces souverains ne contestent le pouvoir donc à ses fils. Bon, Grégoire de Tours rapporte que Clovis disait à la fin de sa vie que malheur, enfin, il le rapporte sous cette forme, malheur à moi qui suis resté comme un pérégrin au milieu des étrangers, un pérégrin, c'est-à-dire en fait donc un habitant non romain de l'Empire, et je n'ai plus, et en même temps un pèlerin, c'est la même racine, et je n'ai plus donc de parents pour m'aider si l'adversité venait. Et Grégoire de Tours rajoute que c'était pas la solitude qui lui faisait peur, mais en fait c'est qu'il faisait très attention, il voulait bien s'assurer qu'il ne lui reste pas en gros un cousin qu'il n'avait pas encore éliminé, parce qu'effectivement Clovis a fait le vide dans sa famille d'une manière tout à fait systématique et efficace. Bon, les mœurs du roi, et j'en terminerai pratiquement par là, les mœurs du roi, évidemment les mœurs, je dirais, personnel du roi reste évidemment marqué par la violence. On n'est pas né un guerrier barbare, effectivement, on sent que ça laisse des traces. Ce qui ne l'empêche pas, je dirais, d'avoir une dévotion marquée, une dévotion que certains ont peut-être pu qualifier de politique, mais qui est néanmoins réelle. D'une part, parce que pendant toutes ces années, l'Église va recevoir des dons considérables en terre, des terres qui sont prélevées sur l'ancien domaine impérial, ce qu'on appelle le fisc impérial, c'est-à-dire donc les terres d'empire. Bon, qui était tombé aux mains donc, des différents souverains barbares, une politique de construction et de reconstruction de très nombreux édifices religieux, notamment à Lutèce, à Paris, la construction d'une basilique dédiée aux saints apôtres, où le roi, enfin Clovis souhaite d'ailleurs être inhumé. Cette basilique, d'ailleurs, il mourra avant qu'elle soit tout à fait achevée. Un roi aussi qui s'intéresse de très près aux affaires ecclésiastiques, parce que c'est sous son règne, à la fin de son règne, en 511, la dernière année, qu'est tenu à Orléans un concile provincial, auquel participent à peu près 30 évêques, et où sont posées, et il faut quand même le noter, où sont posées d'une part, je dirais presque les bases du droit, de la législation qui sera appliquée ensuite à l'Église pendant pratiquement toute la période médiévale, c'est-à-dire donc une législation qui renforce un petit peu donc ces liens entre le pouvoir politique donc et puis l'Église, et puis en même temps qui renforce les privilèges de l'Église au sein donc de la société médiévale. Je vous en cite quelques exemples, des décrets qui sont pris à l'issue de ce synode, de ce concile d'Orléans, très important. Bon, l'approbation royale pour la nomination d'évêques, ce qui sera repris en permanence, c'est la pratique concordataire que connaîtra la France jusqu'au XIXe siècle. L'entrée dans les ordres avec autorisation du roi pour les hommes libres, pour éviter que, d'abord pour maintenir le contrôle royal sur les hommes libres, c'est-à-dire les francs, et puis éviter effectivement que ne se produisent éventuellement donc des phénomènes de désertion massive, ou bien donc du maître s'il s'agit d'esclaves. S'il s'agit d'esclaves gallo-romains, il faut l'autorisation du maître pour entrer dans les ordres, de manière de façon à ce que ça ne constitue pas, si vous voulez, une espèce de fuite sociale en quelque sorte, mais que ce soit bien le résultat d'une vocation religieuse. Approbation aussi, autorité diocésaine sur les monastères, éviter que les monastères ne constituent des entités un petit peu à part. Alors vous allez me dire, mais après tout, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ben, tout simplement parce qu'à l'époque, la Bretagne est en pleine receltisation, hein, beaucoup donc de Celtes venus d'Angleterre et d'Irlande actuelle refluent sur la Bretagne, et ils importent avec eux leur tradition, notamment donc le caractère très indépendant du monachisme celtique, ce qui était un petit peu différent donc pour le monde gaulois. L'exemption fiscale des terres d'église, les terres d'église sont exemptées donc en matière fiscale. Réglementation aussi très importante, le synode d'Orléans décide des règles à adopter pour reconsacrer ou purifier donc les sanctuaires ariens, tous les édifices qui avaient servi donc au culte arien, et en même temps intégrer éventuellement donc des membres du clergé arien après conversion. Enfin bon, les règles sont très strictes, c'est-à-dire qu'il y a des périodes probatoires qui sont très longues, effectivement, qui sont imposées. Et puis le dernier aspect, et ce qui montre que l'Église de l'époque était une Église très fervente et qui se préoccupait beaucoup de ces questions, la condamnation de ce qu'on appelle le nicolaïsme, c'est-à-dire l'obligation du célibat pour le clergé. Hein, bon, chose qui reviendra de manière récurrente jusqu'au Moyen-Âge. Donc un bilan qui est relativement riche, un règne qui est relativement court. Clovis meurt, il a 45 ans, le 27 novembre 511. 45 ans, si on considère que sa date de naissance, évidemment, est 466. Il est inhumé donc à Paris, dans cette basilique des Saints Apôtres, et qui deviendra plus tard l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris, hein, qui contiendra pendant très longtemps donc les restes mortels de Clovis, de Sainte-Clotilde et de Sainte-Geneviève. Donc un roi qui meurt en laissant finalement un royaume prospère, le plus important des royaumes en Occident, un royaume qui est prospère non seulement parce qu'il est le plus important en taille, parce qu'il est aussi le plus peuplé, parce qu'effectivement il est le seul à avoir réalisé cette fusion entre les deux populations, c'est-à-dire la population gallo-romaine et la population franque, un royaume qui est donc le seul, à l'exception, c'est autre chose, donc de l'Empire romain d'Orient, qui est le seul royaume catholique donc d'Occident, le royaume des Burgondes sera très rapidement donc absorbé, et un royaume finalement donc qui porte déjà effectivement donc qui a déjà assuré les fondements finalement de ce que sera la monarchie française, une monarchie effectivement donc où finalement le politique sera toujours, en dépit des péripéties, soumis aux religieux, et qui subsistera effectivement tant que ce politique sera soumis aux religieux, tant que la monarchie et l'Église effectivement fonctionneront de pair à travers donc ce symbole très puissant que sera plus tard donc le sacre. Pour autant, évidemment, donc la suite des événements immédiates, c'est quand même la division, la lutte successorale donc entre les fils de Clovis, parce que si la romanisation donc du royaume est bien avancée, toutes les traces donc de la mentalité, de l'esprit barbare, des règles, du droit barbare ne sont pas pour autant posées, et ne sont pas totalement effacées, et il est clair qu'à partir de là, politiquement, la situation a tendance un petit peu donc à se dégrader. Mais le bilan de Clovis, lui, est un bilan donc extrêmement positif. est non seulement positif, si vous voulez, en termes politiques, mais aussi positif en termes juridiques, puisque, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais il va aussi, dans les dernières années de son règne, réviser donc, ce qu'on appelle donc, la loi salique, qui sera le premier droit écrit, là aussi, donc faisant l'association entre les traditions romaines et les traditions donc, barbares, un droit qui sera appliqué en France jusqu'à la Révolution. Donc une postérité extrêmement féconde, je dirais, sous des auspices, les auspices de la sainteté quand même, il ne faut pas l'oublier, alors qu'au départ, rien ne semblait finalement prédisposer un petit souverain d'une petite population à devenir le plus puissant des monarques de son temps. Voilà. Merci.